Bonjour à tous et bienvenue sur Calade. Au sommaire de notre journal local et régional. Proposition de loi, le droit à l'IVG dans la Constitution, avec nous le docteur Louise Junion Formontant du centre d'orthogénie de Mâcon. Don de sang, rendez-vous le 19 avril, salle des Échevins à Villefranche-sur-Saône. Infirmiers, donneurs et bénévoles de l'amicale caladoise des donneurs de sang bénévoles réunis. Terre des Brouillis en fête le samedi 13 mai. Calade, le journal. Le mathématicien canadien François Lalonde compare dans une tribune au Monde la réforme en cours des retraites en France au système québécois des retraites, qui est fondé, selon lui, sur la justice, la liberté et la solidarité mondiale. Les Québécois ont l'un des régimes fiscaux les plus redistributifs au monde. Au-delà de 100 000 euros de salaire brut annuel, on paye 60% de notre revenu en impôts et taxes, nous dit-il. En même temps, le régime des retraites est individuel et actuariel. D'abord, les chartes des droits et libertés du Canada et du Québec interdisent toute discrimination sur l'âge. Cela signifie qu'à partir de 16 ans, âge légal du travail, chaque individu travaille aussi longtemps qu'il le veut, jusqu'à 55 ans ou 70 ans, voire davantage. Les cotisations de l'employé et de l'employeur à parts égales, quel que soit le milieu de travail, aussi bien dans le secteur public que privé, sont investis dans l'économie nationale et internationale par un comité de retraite qui gère les fonds d'investissement. Leurs membres sont souvent élus par les employés. Le système de retraite québécois est simple. Chacun commence à travailler quand il veut et part à la retraite quand il veut. Il n'y a aucune règle sur l'âge du départ ou sur le nombre minimal ou maximal de trimestres travaillés. À chaque mois de travail, les cotisations employé-employeur sont versées dans le régime de retraite de l'employé, qui reçoit chaque année un rapport détaillé sur l'état de son régime de retraite et sur la prestation qu'il touchera en fonction de l'âge choisi de son départ. Et toc ! La liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse dans la Constitution. La proposition de loi constitutionnelle visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l'interruption volontaire de grossesse en discussion afin d'éviter la régression du droit à l'avortement, comme récemment aux États-Unis, en Pologne ou encore en Hongrie, qui illustre sa fragilité. Jointe par téléphone le docteur Louise Junion Formentin du centre d'orthogénie de Mâcon.
L'IVG, il y en a toujours besoin. Il n'y a pas beaucoup de modifications au niveau des chiffres en France sur les dernières années. Donc là, sur les plus de 10 dernières années, on est toujours à 220 000 IVG par an en France. Et ce chiffre est assez stable. Donc c'est pour ça que dans toutes les grosses villes ou les villes moyennes, il y a normalement un centre d'orthogénie. Donc c'est le nom pour l'endroit où on fait les IVG, pour pouvoir répondre à la demande.
Alors j'ai regardé les chiffres, hein, si je ne me trompe pas, je crois que c'était en 2020 ou quelque chose comme ça.
Oui.
Il y avait 301 IVG sur le centre hospitalier de Mâcon, c'est ça ?
Oui, c'est à peu près les chiffres. Oui, on a regardé pour 2022, on est entre 300 et 350, parce qu'il y a aussi des IVG qui sont réalisés sans passer par l'hôpital, c'est-à-dire qu'ils peuvent être des IVG médicamenteuses qui sont faites à domicile. Donc si on compte vraiment toutes les IVG sur le territoire de Mâcon, c'est à peu près 350 par an.
Donc, et une, vous le disiez, hein, de toute façon, un chiffre qui est relativement moyen depuis de nombreuses années.
Voilà, sur toute la France, le chiffre est plutôt très stable.
Une échelle des âges.
Oui, bien sûr, il y a tous les âges, mais c'est sûrement une idée reçue de penser que ça peut concerner les femmes jeunes ou très jeunes. On a aussi beaucoup de femmes entre 35 et 40 ans qui ont besoin d'une IVG et donc qui souvent ont déjà des enfants. Mais en tout cas, sur Mâcon, j'ai pas les chiffres exacts, mais par exemple, le nombre de femmes mineures est vraiment très faible. Hein. C'est pas du tout la majorité des patientes qu'on accompagne.
Les oppositions sont tenaces sur cette question. Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce qu'il y aura probablement toujours des personnes que ça peut déranger ou qui ont un problème avec le fait que chacun soit maître de son corps et de ce qu'il veut faire de sa vie. Mais je pense qu'il y aura toujours probablement des oppositions. C'est pour ça qu'il faut rester attentif à ça. On a surtout vu l'année dernière ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc c'est pour ça qu'en France, il faut, même si ça semble un droit qui est respecté, on ne peut pas, je pense, considérer qu'il soit acquis à jamais. Donc je pense qu'il faut rester prudent sur ces droits.
Donc on en arrive effectivement à la proposition de loi récente hein, constitutionnelle visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l'interruption volontaire de grossesse. Vous avez bien sûr suivi tout ça de près.
Oui. Bah, du coup, c'est vrai que ça pourrait être une protection supplémentaire si le droit à l'IVG était inscrit dans la Constitution. Quoi qu'il arrive dans les années ou même dans les dizaines d'années qui arrivent, bah, ça serait probablement plus difficile du coup de revenir dessus. C'est en discussion. À ma connaissance, ça devrait être bien parti. Après, il y a des discussions sur les termes utilisés, si ce serait le droit à l'IVG ou la liberté à l'IVG qui serait inscrit, ce qui n'est pas tout à fait la même chose au niveau sémantique. Bon, je pense que l'important, c'est qu'il y ait cette discussion et que, si possible, effectivement, ça soit inscrit dans la Constitution. Ça,
alors, c'est important. Oui. C'est important, liberté et droit. Est-ce qu'on peut l'expliquer, effectivement, parce que certains sont un petit peu frileux hein, sur cette question-là hein.
Bah, disons que la demande, c'était que ce soit le droit à l'IVG qui soit inscrit dans la Constitution, parce que si c'est un droit, ça veut dire que le gouvernement, quel qu'il soit, doit faire en sorte que ce soit possible pour tout le monde. Si c'est une liberté, bah c'est plus que oui, chacun a la liberté de le faire, mais sans qu'il y ait forcément tout qui soit mis en œuvre pour que ça soit possible. Donc c'est pour ça que les mots ont une importance.
Des changements dans la loi.
Alors il y a déjà eu une assez grosse modification de la loi l'année dernière, en mars 2022. Il y a eu plusieurs changements sur l'allongement des délais, justement. Les IVG par méthode médicamenteuse à la maison, donc sans passer par l'hôpital, sont possibles maintenant jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire 7 semaines de grossesse. Les IVG chirurgicales par aspiration les IVG tout court en fait sont passés de 14 semaines d'aménorrhée à 16 semaines d'aménorrhée en France, donc depuis un an, ce qui veut dire qu'on est passé de 12 semaines de grossesse à 14 semaines de grossesse, donc un allongement quand même de 2 semaines. Donc ça, c'est effectif et c'est dans la loi depuis un an. Et le dernier changement, c'était que les sages-femmes ont la possibilité, donc elles avaient déjà bien sûr la possibilité de faire les IVG médicamenteuses, et maintenant à partir de 2023, là, ça devrait vraiment être mis en œuvre. Elles pourront faire les IVG chirurgicales aussi.
C'est une bonne chose.
Oui, c'est une bonne chose. Oui, plus il y a de professionnels qui peuvent pratiquer les IVG, plus ça me semble important.
C'était le docteur Louise Junion Formentin du Centre d'orthogénie de Mâcon, dans le cadre de la proposition de loi constitutionnelle visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l'interruption volontaire de grossesse. Don de sang, rendez-vous le 19 avril, salle des Échevins à Villefranche-sur-Saône. Collecte de 9h à 13h et de 15h à 19h. Infirmiers, donneurs et bénévoles de l'Amicale caladoise des donneurs de sang bénévoles réunis autour d'un geste de solidarité salutaire. On les écoute.
Alors je m'appelle Jean-Louis, je suis vol à l'Amicale caladoise des donneurs de sang. Depuis 2015, ma sollicité, c'est que je donnais mon sang. Et à la collation, j'ai discuté avec ceux qui étaient des bénévoles qui étaient là-bas. Et à cette époque, ils recherchaient des bénévoles. Donc, j'ai été tout de suite partant pour faire du bénévolat. J'aime bien aider les gens, j'aime bien. Ils sont bien utiles. Et c'est pour ça qu'il faut le rappeler. Il faut rappeler aux gens que c'est utile. Tout le monde peut avoir besoin, eux, leurs enfants. On en manque de sang hein, partout en France. Donc, c'est très important que les gens ils se mobilisent un peu.
Ah, une dame qui arrive.
Vous avez rendez-vous ?
Oui.
Et à ?
Ah oui, Valérie, vous désinfectez bien les mains d'abord. Le masque n'est pas obligatoire, mais recommandé. Et un stylo, si vous n'en avez pas. Et une petite bouteille.
Bonjour. Vous avez rendez-vous ?
Stoner Adeline, à 10h15.
Hop. Pareil, hein, le masque n'est pas obligatoire, mais recommandé. Hein. Vous avez bien une pièce d'identité sur vous, parce qu'elle vous demandera une pièce d'identité et une bouteille.
Merci.
Et bonne journée.
Merci. Bonjour, vous venez d'arriver ?
Oui.
C'est régulier
Tous les 4-5 mois, généralement.
4-5 mois ? Qu'est-ce qui vous donne l'envie, effectivement, de faire cet acte ?
Je travaille dans le milieu de la santé, déjà, donc ça aide pas mal. Je suis aide-soignante.
Donc...
Merci beaucoup, bonne journée.
Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Vous êtes donneur, c'est ça ?
Oui.
Depuis de nombreuses années ou...
Plusieurs décennies, oui.
Plusieurs décennies. C'est comment, pour les raisons de ce don de sang ?
Parce qu'il y a une nécessité de donner son sang, parce que j'ai un groupe rare, donneur universel, tout simplement pour cette raison-là. Oui, je crois qu'on donne pour les autres, pas pour soi. Quand je suis libre, je viens.
Oui, bonjour, je suis Nicolas Vogler, je suis infirmier à l'établissement français du sang. Donc mon rôle, c'est de prélever en fait les donneurs qui viennent, qui se présentent pour faire un don du sang. Alors Villefranche, on y est une fois par mois, en général le premier mercredi du mois. Et après, tout le reste de la semaine et tout le reste du mois, on tourne effectivement dans tout le Rhône, le Nord-Isère et l'Ouest de l'Ain. En sachant qu'on travaille également à la Maison du Don, Lyon, Perrache, Confluence. Et en fait, on est rattaché à notre centre régional qui est à Décines. Notre centre administratif et le centre de gestion des poches.
Alors, ce qui représente effectivement énormément, je vais dire, de donneurs finalement. Oui. Vous avez une idée en gros sur les quantités peut-être qui sont rassemblées
sur une semaine, une collecte là comme celle de Villefranche. Voyons, on est 4 à prélever. On attend là 120 donneurs ce matin et encore 120 donneurs cet après-midi où on aura une deuxième équipe de 4 préleveurs qui viendront. Donc une journée comme celle-ci, normalement, c'est autour de 250 dons, entre 200 et 250 dons.
C'est une bonne collecte ?
Une très bonne collecte.
Oui.
Ouais. Après, à Villefranche, on a l'habitude de venir et généralement, on a plutôt du succès. Villefranche et les alentours, hein. Après, on est aussi aux portes de l'Ain, là. Donc, tout ce qui est Jassan-Riotier. Là, j'avais quelqu'un qui venait de Savigneux dernièrement. C'est effectivement plutôt les gens qui sont autour de Villefranche.
Des personnes qui sont dans le monde de la santé ou des personnes qui sont sensibilisées par...
Pas nécessairement dans le monde de la santé. Par contre, effectivement, sensibilisées. Soit sont des donneurs habituels, donc qui reçoivent des alertes régulièrement, ce qui est le cas actuellement parce qu'on est en alerte pour un manque de poches au global. Hein. En France, il manque à peu près 20 000 poches de sang sur le stock global en France. Donc en ce moment, on sollicite pas mal nos donneurs, mais également des nouveaux donneurs de tout âge qui viennent soit par rapport aux campagnes d'information qu'il peut y avoir de la part de l'EFS sur les réseaux sociaux, la télé, la radio, etc., les journaux aussi. Donc voilà.
Don de sang, rendez-vous à Villefranche-sur-Saône, mercredi 19 avril, salle des Échevins, de 9h à 13h et de 15h à 19h. Terre des Brouillis. En fait, le samedi 13 mai, le Brouillis Festival se déroulera au château des Ravatis. Pour la deuxième édition, une journée pleine de découvertes qui commencera par le concours des vins des crus Brouillis et côtes de Brouillis pour les professionnels, sera organisée également toute la matinée la balade de la biodiversité pour le grand public, un pique-nique champêtre dans le parc du château et des animations kids au programme. Et sans oublier bien évidemment l'accompagnement des artistes, dont Sonitz, qui vous proposera un set reggae rock live. Le programme au complet et les animations sur www.terredesbrouillis.com. Le tout servi le samedi 13 mai en Terre des Brouillis. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Quelade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Quelade.